Så nå vinnes. Nous allons prier. Père Céleste, nous avons encore immense avantage ce soir de pouvoir nous rassembler et pouvoir regarder dans ton saint livre. Oh Dieu, ce que tu as à faire comme œuvre en dedans de nous, ce que tu as commencé, nous avons confiance que tu l'amèneras à la perfection. Si nous nous abandonnons entre tes mains et nous tournons toute notre attention vers toi et non pas vers un homme pour savoir ce que tu as à nous dire, ce que tu as à nous réprimander, ce que tu as à corriger en nous, ce que tu as à nous encourager, tout ce que tu as à nous enseigner, oh, tout ce que tu as à nous exhorter, tout cela, nous attendons cela de ta part et nous croyons que nous ne serons pas déçus. Pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos péchés. Inspire-nous encore ce soir. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse richement. Nous allons lire ce soir dans Exode, nous allons voir un nouveau sujet. T'es conduit autrement. Exode, chapitre 5. Verset 1er. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon et lui dirent : Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit : Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël ? Je ne connais point l'Éternel. Et je ne laisserai point aller Israël. Ils dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez à vos travaux. Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je ne sais pas si on peut appeler ça de la témérité ou de l'effronterie ou être culotté pour que le pharaon pose la question. Qui est l'Éternel? Amen. C'est le titre. Qui est l'Éternel? C'est vraiment de l'effronterie et même, comme on dit, la mauvaise foi dans le monde. Il pose sa question. C'est vrai qu'il a ses dieux. En Égypte, le Dieu qui prévaut aujourd'hui, c'est Allah, évidemment. Ils sont musulmans. Et avec d'autres, et certainement d'autres, parce que Dieu dit dans Exode 12, si je trouve le passage, oui, au verset 12, il dit, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte. » Ça sont les habitants, les Égyptiens. « Depuis les hommes jusqu'aux animaux, avec leur bétail. » Et Dieu dit, « J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Amen. Pharaon avait ses dieux. Et Dieu dit, « Je suis l'Éternel. » Et quand il pose cette question, Dieu va susciter la réponse de la bouche d'Aaron et de Moïse. Ils lui disent, au verset 3, ils lui disent, le Dieu des Hébreux. Dites amen à ça. Quand ils disent, le Dieu des Hébreux, quand Dieu inspire cette réponse, Pharaon devait savoir qui était l'Éternel. Oui, c'est un peu comme quand, c'est pas dans la même lignée des choses, mais ça ressemble un peu à la rencontre de Jésus avec Nicodème. Quand le Seigneur lui dit, il faut naître de nouveau, il pose la question, dois-je retourner dans le ventre de ma mère pour que moi qui suis vieux, pour que je puisse encore renaître? Le Seigneur lui dit, ce sont des choses que tu devrais connaître. Amen. Amen. Tu es le docteur d'Israël et tu ne connais pas ça. Et ici, on lui dit, c'est le Dieu des Hébreux. Le premier à être appelé Hébreu, c'est Abraham. C'est donc, le Dieu des Hébreux, c'est le Dieu d'Abraham. Et le Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Genèse chapitre 14, première fois où le mot hébreu apparaît dans la Bible. Il y a eu une guerre, il y a eu en tout cas un enlèvement. Les rois de. Ils sont énumérés là. Hein. Les rois de Shinéar, d'Arjok, de Lassar, de Kedorlaomer, d'Elam et de Tidéal, roi de Cojim, ils ont fait la guerre au roi de Sodome. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enlevé, n'est-ce pas, le neveu d'Abraham, ils ont enlevé Lot. Et ils ont bien sûr battu le roi de Sodome. Et le roi de Sodome, il a été aussi fait prisonnier. Alors, lorsque les vainqueurs ont enlevé toutes les richesses, verset 11, ces rois-là étaient vainqueurs. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions, ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot. C'est l'erreur qu'ils ont commise. Si c'était limité au roi de Sodome, ils n'auraient pas eu de problème. Oui, mais ils s'en sont pris au neveu d'Abraham, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Vous savez, il y a eu des disputes entre Lot et Abraham. Mais c'était son neveu. C'était de la famille d'Abraham. Et Dieu n'aime pas qu'on touche à la famille d'Abraham. Et l'apôtre nous dit ce soir que par la foi, si nous avons la foi, nous sommes de la famille d'Abraham. Nous sommes des fils d'Abraham. Ce qui fait, Poutine ou un autre roi ou un autre pharaon, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais dès le moment où il touche un enfant d'Abraham, ça va poser problème pour lui. Et il prend le neveu d'Abraham, et au verset 13, un fouillard, quelqu'un qui a fouillé, va l'annoncer à Abraham, l'hébreu. C'est là que le mot hébreu apparaît, pour la première fois. L'hébreu, celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, Mamré c'est lui l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Et Abraham était différent des Amoréens. Amen. Il était différent des Cananéens. Ce qui signifie que le Dieu d'Abraham, il est différent des autres dieux, notamment Dieu, le Dieu d'Égypte. Ça peut être Allah. Quand Dieu le permettra, on verra un jour là. La guerre, quand Dieu poussera qu'on le fasse, Gog et Magog, vous verrez que ces dieux-là, en fait, ce sont ils ont une apparenté avec dont Gog et Magog, c'est une question avec l'islam. Un jour, parce que la Bible dit, hein, tout genou fléchira devant le nom du Seigneur Jésus-Christ. Même le genou des musulmans. Ils fléchiront devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Tous ceux qui ne veulent pas suivre, c'est même les genoux de Mahomet, hein, fléchiront devant le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Allah, s'il existe, il fléchira ses genoux devant le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, moi, je ne sais pas quelle mouche a piqué, n'est-ce pas, ce pharaon, hein, en posant la question qui est l'Éternel. Nous allons voir. Il devait savoir qui est le Dieu des Hébreux. Il devait le savoir. Et Abraham a eu un fils, Isaac, qui est aussi un Hébreu. Abraham, Isaac a eu deux fils, dont Jacob. Ça va? Jacob a eu 12 fils, ou 10, puisque les deux autres, Éphraïm et Manassé, sont venus et ont été adoptés. Mais on peut dire qu'il en a eu 12. Joseph, fils de Jacob, était un Hébreu. Il était descendant d'Abraham. Et il était Hébreu, Joseph, au milieu des Égyptiens. Joseph, en tant que fils d'Abraham, puisqu'il n'y a pas de grand-père hein, dans la Bible, en tant que fils d'Abraham, avait pour Dieu le Dieu de son père Abraham. Et le Dieu de son père Abraham était différent des dieux égyptiens. Parce que il y a des choses que les Égyptiens sollicitaient, qu'ils essayaient de voir, leur Dieu ne pouvait pas les aider. Il a fallu qu'on fasse appel à Joseph. Amen. Dites amen à ça. Amen. Donc, le Dieu d'Abraham est différent des dieux des Égyptiens et des dieux des autres peuples. Un peu comme nous. En Afrique, nous avions nos dieux. N'est-ce pas? Nous avions nos idoles, nous avions nos ancêtres, nous avions toutes ces choses. Dans une discussion que j'ai eue avec un frère, j'aime bien avoir des discussions avec lui, j'apprends souvent beaucoup de choses avec un frère, où il me parlait des traditions, il dit, mais on doit quand même aussi voir certaines choses selon nos traditions. Moi, je dis, tant que la Bible n'en parle pas, on peut regarder nos traditions. Mais si la Bible en parle et que ça ne concorde pas avec nos traditions, c'est la Bible qui a raison. Amen. Parce que bon, si vous êtes dans un cas de mariage par exemple, il y a des traditions dans ma tribu, dans la tribu de chacun d'entre nous, il y a des traditions, il y a des coutumes telles qu'on les fait, mais ce n'est pas ma tribu, ce n'est pas la vôtre, ce ne sont pas nos tribus qui ont institué le mariage. Celui qui a institué le mariage, c'est Dieu lui-même, c'est le Créateur. Donc, ce que pense ma tribu n'a aucune valeur devant ce que Dieu pense. Amen. Dites amen à ça. Amen. Ce que Dieu dit, c'est ce que Dieu dit, ça annule les traditions. Amen. Maintenant, si les traditions... Oui, mais il ne faut quand même pas oublier que tu viens de... Non, je veux bien oublier ça. Ce dont moi, je ne veux pas oublier, c'est que je viens du ciel. C'est déjà ça. Amen. Mon endroit, c'est le ciel. Mon endroit, ce n'est pas Banali. Amen. Je ne sais même plus à quoi ça ressemble aujourd'hui. Amen. Donc toi, tu oublies tes... Non. Les traditions, d'abord, je ne les connais pas, les traditions. Et je ne cherche pas à les connaître. Amen. Tant que je connaîtrai la Bible, je regarderai dans la Bible, hein, je saurai que je suis dans le droit chemin.
Amen.
Gloire à Dieu. Donc, le Dieu de Joseph, il était différent des dieux des Égyptiens. Et Joseph, c'était un Hébreu. La femme de Potiphar l'atteste. Genèse 39. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, Potiphar. Pourquoi ? Non, on va commencer au début. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, hein, on a bien lu, hein ? Officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites. Ismaélites, nous savons qui c'est. Ils se réunissent ici en face. Bien. Qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, avec Joseph, pendant que Potiphar, c'est Dieu à lui, était avec lui. Dites amen à ça. Et pendant qu'il faisait ses affaires, pendant qu'il menait son commerce, Dieu ne le bénissait pas comme il fallait. Il a pris Joseph chez lui, il l'a acheté chez les Ismaélites. Et dès que Joseph est arrivé chez lui, il a commencé à prospérer. Amen. J'aime ça. Vous savez, si ce monde prospère aujourd'hui, c'est par vous. C'est pour, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils et fille d'Abraham, c'est par vous. Amen. Joseph était dans une situation difficile. Hein? Vous êtes dans une situation difficile peut-être. Hein? Mais si Potiphar prospère, c'est grâce à Joseph. Mais Potiphar, il a été quand même malin. Il a compris que Dieu, qu'il y avait un être suprême qui le faisait prospérer à cause de ce monsieur-là qu'il venait d'acheter. Amen. L'Éternel fut avec lui, donc avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. Il habitait la maison de son maître, l'Égyptien. Alors, l'Égyptien a compris. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ah, Potiphar, il connaissait l'Éternel. Officier de Pharaon. Il connaissait l'Éternel. Et que l'Éternel, il a certainement, Joseph lui a parlé de l'Éternel. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Il a dû se dire, moi, Allah ici, il ne m'a jamais fait prospérer. Hein? Ou bien, vous savez, ce sont des gens qui ne vivent jamais correctement. Ils doivent toujours faire des magouilles, des artifices, comme le pharaon d'ailleurs, pour maintenir les Hébreux en esclavage. Ils doivent toujours utiliser des ruses. Toujours. Toutes les failles de l'administration ici, ils les connaissent. Ils les connaissent. Et ils savent profiter du système. De manière tantôt légale et de manière tantôt illégale. Ils sont pires que les Congolais. Et si on dit pire que les Congolais, ça veut dire ce que ça veut dire. Bien. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, verset 4, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Amen. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui appartenaient, soit à la maison, soit au champ. Amen. Quel Dieu! Et tu oses demander qui est l'Éternel? Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Aïe. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Ça marche hein, avec les Ismaélites. Ça marche avec d'autres, mais avec un véritable Hébreu, ça ne marche pas. Dites amen à ça. Ça ne marche pas. Dites non, moi je respecte les règles. Mon maître m'a établi ici. Je suis maître de tout, mais son épouse, je ne touche pas. Il refusa. Quel est ce type? Quel est ce genre d'homme? Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi de connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu, contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. C'est vraiment quelqu'un de bizarre. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu. » Il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix. Tu es en train de crier maintenant. Tu n'as pas crié avant. Amen. Gloire à Dieu. Donc, Pharaon devait être quoi? Il devait être... Bon, ok, on peut se dire que peut-être que Potiphar n'a pas osé parler de l'Éternel à Pharaon. Maintenant, l'Éternel, comment est-ce que l'Éternel est arrivé auprès de Pharaon, l'ancêtre du Pharaon qui a dit qui est l'Éternel? Comment est-ce que son nom est-il arrivé à l'ancêtre de ce Pharaon-là? Vous savez, ce Pharaon-là, Dieu dit, c'est dans Romains, hein, il dit, « Je t'ai suscité à dessein. » Jésus dit à Pilate, « Tu n'aurais aucun pouvoir si cela ne t'avait pas été donné du ciel. » Daniel dit à Nebuchadnezzar, c'est l'Éternel, il établit, il est, il renverse. Il élève et il rabaisse. Si tu es là, c'est grâce à lui. Amen. Nebuchadnezzar, il s'est trouvé grand, il dit, c'est moi, le grand Nebuchadnezzar qui est bâti Babylone. Dieu dit, ah bon, c'est toi le grand. Dieu l'a rabaissé. Amen. Au niveau d'un animal. Il a brouté l'herbe comme un âne. Gloire à Dieu. Amen. Alors, comment c'est arrivé? Eh bien, à cause de cette histoire, Dieu voulait que Pharaon, que ça arrive jusqu'à la cour de Pharaon. Et cette histoire a contribué à ce que ça arrive dans la cour de Pharaon. Quand Potiphar apprend ce que sa femme est en train de dire, eh bien, verset 19, après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph, donc Potiphar, fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Je suis sûr qu'après ça, il a dû faire faillite. Enfin, on ne sait pas. Bien, on continue. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, même en prison. Vous avez déjà vu une prison prospérer, vous? Eh bien, là où on a mis Joseph, la prison prospère. Amen. Ceux qui sont en prison, ils sont bénis. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La prison elle-même, elle est bénie. Amen. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison, il a dû voir ce prisonnier est particulier. Il le plaça sous sa surveillance. Il plaça sous la surveillance de Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. C'est toi le chef ici maintenant. Et certainement, le chef de la prison, certainement, il a eu des promotions grâce à Joseph. Que la prison était bien tenue. Amen. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Bref, Joseph est jeté en prison. Et en prison, il va y rester. Et voilà que le roi, le pharaon, avait fait arrêter deux de ses officiers. Après ces choses, il arriva que les chansons, celui qui servait le vin, et le panetier, celui qui servait le pain, du roi d'Égypte, offensèrent leur maître. Avec eux, on ne blague pas. Le roi d'Égypte, Pharaon, fut irrité contre ses deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Le chef des gardes, tout ça, c'est la route qui conduit Joseph vers Pharaon. C'est une route rocailleuse. C'est une route difficile, parsemée d'embûches, parsemée de calomnies, de calamités. Mais il va arriver. Parfois, vous devez vous frayer un chemin, difficilement. Mais ça mène vers la gloire. Amen. C'est Dieu qui vous y conduit. Et il arrive là-bas et il est en prison. Le chef de garde les plaça sous la surveillance de Joseph, eux qui étaient officiers, dans la prison, qui faisait le service auprès d'eux. Et ils passèrent un certain temps en prison. Alors, un certain temps, combien? On ne sait pas. Pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Pourquoi est-ce que vous êtes tristes? Parce que notre Dieu, il ne sait pas donner l'interprétation de nos songes. Amen. Oh, Joseph leur dit, ne pleurez pas. Le Dieu de mon père Abraham, amen, il sait faire ça. Amen. Pourquoi avez-vous mauvais visage aujourd'hui? Et au verset 8, ils répondent, nous avons eu un songe et il n'y a personne pour l'expliquer, même pas notre Dieu. Joseph leur dit, mais n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Il est comment votre Dieu à vous? Racontez-moi donc votre songe. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Ben, vous pouvez lire la suite. Ce que je voulais dire, c'est que le chef des échansons ou le panetier, ils auraient pu oublier le songe. Hein. Le Dieu de Joseph allait nous donner le songe. Parce qu'il l'a fait avec Daniel. C'est le même Dieu. Donc, Joseph va donner l'explication. D'abord, le plus courageux, c'était le chef des échansons. L'autre n'osait pas donner son songe. Le chef des échansons a donné. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit, dans mon songe, voici, il y avait un cèpe devant moi. Alors, Joseph va lui dire, verset 12, Joseph lui dit, en voici l'explication. Les trois sarments que tu as vus sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais quand tu seras libre, souviens-toi de moi. Quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard, parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. Ah, le chef des échansons lui dit merci. Le chef de Panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, c'est que moi aussi j'aurai une explication favorable. Vous savez, il y a des pasteurs comme ça. Vous pouvez venir avec n'importe quel songe, ils vont toujours vous dire que vous allez prospérer. Ce n'est pas toujours vrai. Au lieu de dire qu'ils ne savent pas, ils vous disent non, c'est parce que Dieu va faire une grande chose dans ta vie. C'est ce que font les liseurs de bonne aventure. Je vois une, dans ta ligne de vie, je vois quelque chose de merveilleux. Non, tu ne vois rien. À moins que Dieu ne te l'ait montré. Gloire à Dieu. Non, il voit que... Donc moi aussi, j'aurai certainement quelque chose de bien. Alors lui, il raconte le sien. Hein. Lui, c'est avec des corbeilles et de pain. Alors, voici, il y avait dans mon songe, verset 16, le chef de Panetier, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Aïe. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce cuits au four et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Déjà, quand vous avez un songe pareil, vous devez savoir que c'est mauvais. C'est mauvais signe. Hein. Des oiseaux qui viennent manger sur votre tête. Ça doit faire peur. Et les oiseaux les mangeaient au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit, en voici l'explication. Un Hébreu, il n'a pas peur de donner l'explication. Hein. Il donne l'explication. Les trois corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi. Oula. Te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Le troisième jour, c'était l'anniversaire de Pharaon. Jour de la naissance de Pharaon. Donc, c'était son anniversaire. Il fit un festin à tous ses serviteurs. Et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échansons pour qu'il mette la coupe dans la main de Pharaon, mais il fit pendre le chef des panetiers selon l'explication que Joseph leur avait donnée. Et regardez comment les Égyptiens sont oublieux. Verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph. Et pourtant, c'est quelque chose qui devait le marquer. Et le monde est comme ça. Est-ce que c'est vous et moi, ce sont nous les croyants qui avons établi le calendrier? Non. Sont-ce les croyants qui ont dit, voilà, à partir de maintenant, on va commencer à compter les années à partir de la naissance de Jésus-Christ? Ce sont eux-mêmes qui disent que nous sommes en 2023 après Jésus-Christ. Ce sont eux qui le disent, non? C'est dire, donc, c'est reconnaître quelque part que Jésus-Christ est venu. Ah oui? Il n'y a pas d'année, n'est-ce pas, après la naissance d'Allah ou de Mahomet. Hein? Demandez à un musulman. Nous sommes en quelle année après la mort de Mahomet? Il va devoir calculer. Nous, on ne calcule pas. Jésus-Christ est venu il y a 2023 ans. Point. Amen. Même un incrédule sait. Pourquoi est-ce que nous sommes en 2023? Eh bien, c'est 2023 après Jésus-Christ. Ah! Mais je n'y crois pas. Oui, mais tu crois quand même que nous sommes en 2023. Parce que quand tu écris ton message, tu dates, hein, tu mets, nous sommes le 28 du 7 2023. Si tu n'y croyais pas, tu aurais mis une autre date. J'aime ça. Bon, bref, les chansons a oublié Joseph. Mais Dieu va lui rappeler. Dieu va lui rappeler. Maintenant, c'est Pharaon qui va avoir son songe. Et ça va servir à ce que Joseph puisse arriver chez Pharaon.
Amen.
Chez l'ancêtre de celui qui a dit « Qui est l'Éternel ?» Oui. Donc, il dit ceci, les chansons, quand Pharaon va demander à ses sages de lui interpréter son songe, aucun de personne ne pourra le faire, il va être irrité. Ils sont toujours comme ça. Nebuchadnezzar aussi, c'était pareil. Verset 10, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Bon, verset 13, verset 11, attendez. Verset 9. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, « Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. » Donc, il avait offensé Pharaon. C'est pour ça qu'on l'avait mis en prison. Alors, il rappelle, « Chef, sire, quand j'avais commis la faute contre vous, vous m'avez fait mettre en prison. » Et en prison, eh bien, Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs, donc lui et le panetier, hein, et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit, et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu. Vous voyez, quand Aaron et Moïse donnent la réponse aux descendants de Pharaon, là. Il lui donne la réponse. Quand il pose la question, qui est l'Éternel? Ils lui disent, le Dieu des Hébreux, il devait savoir.
Amen.
Il y avait là un jeune Hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers.
Très bien, faites venir Joseph. Verset 14, Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements. Il n'avait pas encore interprété. Hein. On l'habille déjà. Et se rendit vers Pharaon pour qu'il paraisse très bien devant Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe.
Personne ne peut l'expliquer. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph va lui dire, Joseph répondit à Pharaon en disant, sire, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pour favorable, c'est-à-dire selon l'interprétation de ton songe. C'est Dieu.
Et grâce à cela, l'Égypte sera sauvée de la famine. Grâce à Joseph, l'Hébreu. L'Égypte sera sauvée de la famine. Hein? Ils ont eu tellement d'abondance les 7 premières années que souvent on oublie comme c'est abondant, on croit que ça va être toujours comme ça. Non? Regardez aujourd'hui en Grèce, ce qui se passe, c'est un lieu où les touristes aiment bien aller et ils ont pensé que chaque année, ce sera comme ça. Eh bien non, cette année-ci, ça ne va pas. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Ils doivent savoir qu'il y a un Dieu. Ils croyaient que la Grèce a eu ça. Non, il y a un Dieu qui règle la météo. Comment pouvez-vous expliquer, nous avons ici un été pourri. Ici en Belgique, quelques kilomètres, quelques centaines, disons un bon millier de kilomètres ou 2 milliers de kilomètres plus bas, là-bas dans le sud, ça ne va pas. Ils ont des chaleurs de 40, 50 degrés. Alors nous ici, ne nous plaignons pas de ce temps. Eux, ils s'en plaignent. Ah, ces pluies, c'est un été pourri. Ah, ceci, cela. Ne vous en plaignez pas. Dites merci à Dieu. Il nous a préservés. Ah. Alors, maintenant, le songe est interprété et Pharaon va dire ceci au verset 38. Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Trouverions-nous un homme comme celui-ci? N'oublions pas, cet homme en question, c'est un type de Christ. Trouverions-nous un homme comme Jésus-Christ qui nous fait connaître toutes ces choses? Donc, l'ancêtre de Pharaon, il s'est écrié, il dit, cet homme est intelligent. Il n'y a personne d'aussi intelligent que lui et d'aussi sage que lui. Qu'est-ce que je fais? Je l'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Et l'Égypte a prospéré. Le descendant de Pharaon devait savoir que l'Égypte a prospéré grâce à Joseph. Et il y avait une évidence que Joseph avait bel et bien existé. Comme nous, nous avons cette évidence, il y a un tombeau vide, et puis le monde lui-même, crédule ou incrédule, compte qu'il est venu il y a 2023 ans. Ils peuvent s'être trompés d'une année ou deux, mais ils reconnaissent qu'il est venu il y a 2000 ans. Ouais. Alors, le Dieu, ce pharaon-là, a compris que le Dieu des Hébreux était différent des dieux d'Égypte. Les dieux d'Égypte, un peu comme nous, si on dit les dieux africains, ça n'a pas été seulement qu'en Afrique. Hein. C'est partout comme ça. L'Europe oublie qu'ils sont passés par là. Ils nous trouvent des sauvages. Ils ont été sauvages aussi. Ils avaient aussi plein de dieux. Le dieu de la pluie, ils étaient superstitieux. Dieu de la pluie, Dieu du soleil, Dieu de machin, Dieu de ceci, Dieu trèfle à quatre feuilles, de toutes ces choses-là. Ils ont tout ça. Le psaume 115. Le psalmiste dit ceci. J'aime bien ce psaume. J'aime bien tous les psaumes. Il dit ceci. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Amen. À cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Pourquoi Pharaon dirait-il, qui est l'Éternel? Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Le psalmiste ne lâche pas. Il continue. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent. Amen. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, Hébreu, confie-toi en l'Éternel. C'est lui notre secours et notre bouclier. Et ce pharaon prétend ne pas connaître Joseph. Or, Joseph Quand il est mort, ses os sont restés là, même en Égypte. On n'a pas enterré. Le cercueil était là. Ça a dû se répercuter de génération en génération. Pendant les 400 ans là, un pharaon qui était élevé au pouvoir, qui arrivait au pouvoir, pouvait demander, quand il était encore petit, à son papa, « Papa, mais c'est quoi ce cercueil qui est là ?»« Le cercueil, fiston, c'était un homme de Dieu qui était venu, qui avait sauvé le pays de la famine. » C'est une histoire qui devait se perpétrer. On est d'accord ? Les os de Joseph étaient là. Donc, ce n'était pas un mythe, les os étaient là. Mais pourquoi est-ce qu'on l'enterre ? Parce qu'il a refusé qu'on l'enterre ici, parce que leur Dieu les visitera un jour ici, et il veut qu'on... Il le visitera un jour là-bas dans le pays de leur père. Alors, il a dit, quand leur Dieu les visitera, eh ben, il faudra que ses os soient là-bas. Ah bon, oui.
OK. De pharaon en pharaon, on arrive à celui-là. S'il avait bien compté, parce qu'il devait être, mis au courant, que les Hébreux allaient être asservis pendant 400 ans. Et s'il avait compté les années, en voyant les années approcher, il aurait dû se dire, ce Dieu-là qui interprète les songes, je ne veux pas avoir affaire avec lui, hein, que je laisse les enfants d'Israël partir. Eh bien non. Un peu comme le monde aujourd'hui renie que Jésus-Christ est venu. Ouais. Alors, le pharaon en question est venu. Il paraît qu'il n'a pas connu Joseph. C'est qu'il ne connaissait pas son histoire. S'il n'a pas connu Joseph, il ne connaissait donc pas le Dieu des Hébreux. C'est pourquoi il pose la question, qui est l'Éternel ? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que c'est qu'il devait savoir une chose dans son histoire, que c'était Joseph qui avait acheté non seulement les Égyptiens, mais les Hébreux aussi, pour Pharaon. Si les Israélites lui appartenaient, les descendants de Jacob lui appartenaient, c'était parce que Joseph les avait achetés pour son ancêtre. Genèse 47. Il devait savoir ça. C'est pour ça que Dieu envoie Moïse et Aaron dire, dis-lui de les laisser partir. Parce que ils appartenaient à Pharaon. Dans Genèse 47, pendant la famine, verset 13, il n'y avait plus de pain dans tout le pays car la famine était très grande. Le pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient à cause de la famine. Joseph recueillit tout l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan contre le blé qu'on achetait. Ça va ? Donc, on venait acheter le blé et il prenait l'argent. Et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Finalement, à un moment donné, ils n'ont plus d'argent. 7 ans de famine, c'est grave, hein ? Quand l'argent du pays d'Égypte et du pays de Canaan fut épuisé, tous les Égyptiens vinrent à Joseph en disant, « Donne-nous du pain. » Mais nous, on ne sait plus acheter. « Pourquoi mourions-nous en ta présence, car l'argent manque ?» Joseph dit, « Donnez vos troupeaux. » Si vous ne voulez pas les manger, donnez-les vos troupeaux et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes, il leur fournit ainsi du pain, cette année-là, contre tous leurs troupeaux. Vous savez, quand Dieu veut vous conduire, quand Dieu vous sanctifie, hein,
ces choses que vous gardez sur vous comme des idoles, vous êtes addict à ça. Dieu va vous mettre dans des situations où vous allez lâcher ça. L'argent, alors qu'ils étaient habitués à courir après l'argent, ils ont donné l'argent pour le pain. Maintenant, ils n'avaient plus d'argent. Bon, c'est pas grave, on a des troupeaux. Amenez vos troupeaux. Et ce n'est pas fini. Parce qu'il y a encore un grand monsieur ou une grande dame que vous devez encore vendre. Amen. Lorsque cette année fut écoulée, il vint à Joseph l'année suivante, verset 18, et lui dire, nous ne cacherons point à mon Seigneur que l'argent est épuisé et que les troupeaux de bétail ont été amenés. On a lâché tout ça à mon Seigneur. Il ne reste devant mon Seigneur que nos corps et nos terres. Voilà le monsieur ou la madame que Dieu veut avoir. Dieu n'est pas intéressé par notre argent, ni nos troupeaux. Ce qui l'intéresse, c'est nous, nos âmes. Pourquoi mourions-nous sous tes yeux, nous et nos terres ? Achète-nous avec nos terres contre du pain et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres, tout ce qui nous appartient, n'est-ce pas ? Maintenant, vous ne chanterez plus en vain. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Amen. Donne-nous de quoi semer afin que nous vivions et que nous ne mourions pas et que nos terres ne soient pas désolées. Joseph acheta toutes les terres de l'Égypte pour Pharaon, car les Égyptiens vendirent le chacun leur champ parce que la famine les pressait et le pays devint la propriété de Pharaon. C'est toujours pas fini. Il fit passer le peuple dans les villes d'un bout à l'autre des frontières d'Égypte. Seulement, il n'acheta point les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leurs terres. Joseph dit au peuple, « Je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence et vous pourrez ensemencer le sol. » Bref, si les Égyptiens et les Israélites appartenaient à Pharaon, c'est grâce à Joseph. Alors, ce n'est pas normal que ce Pharaon dise plusieurs siècles plus tard qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Ça, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dans les derniers jours, les hommes seront arrogants, hautains. C'est l'arrogance de Pharaon. C'est l'arrogance du monde aujourd'hui. Le monde oublie que Dieu a donné une terre, que Dieu a fait de cette, Dieu a établi des lois sur cette terre. Dieu a fait de sorte que cette terre soit un bon endroit où vivre. Mais plusieurs générations plus tard, ils posent la question, qui est Dieu ? Qui est le Créateur ? Mais le Créateur, c'est celui qui vous donne la pluie. Le Créateur, c'est celui qui fait briller le soleil. Vous savez, la nature tout entière, elle nous parle de Dieu. Nous sommes aujourd'hui en plein été. L'été va bientôt se terminer. Ces fleurs qui ont fleuri en été, elles vont commencer à faner petit à petit, ou bien à donner des fruits. Ces plantes, ces arbres qui sont verts aujourd'hui vont commencer à jaunir. D'un jour à l'autre, les arbres seront complètement dénudés. C'est la mort. Le soleil qui nous a éclairé un petit peu aujourd'hui, eh bien, il est en train de se coucher. Demain, le soleil reviendra. Cet arbre qui perd ses feuilles retrouvera ses feuilles au printemps. Ces plantes qui tombent revivront au printemps. Ça nous parle de la vie, de la naissance au moment de la germination. Ça nous parle de la vie. Ça nous parle du vieillissement, ça nous parle de la mort, et puis ça nous parle de la résurrection. Tout nous parle de cela. Tout nous parle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous vivons aujourd'hui avec l'évidence que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. La nature elle-même nous le montre, il est ressuscité. Celui qui réglait les problèmes autrefois en Galilée, il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Les mêmes choses qu'il faisait hier, il les fait encore aujourd'hui. Il est au milieu de nous. On chantait un cantique chez les catholiques il y a quelque temps pour une fois, qui chante un bon cantique. Il disait, s'ils venaient, en parlant des frères d'Emmaüs, et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Mais voilà, me dit, beaucoup l'aiment aujourd'hui, disent qu'ils l'aiment, mais ils ne réalisent toujours pas qu'il est ressuscité. Malgré qu'on leur a dit qu'il est ressuscité, malgré qu'on leur a dit qu'il est vivant, mais ils ne le réalisent pas. Alors ce cantique disait, eh bien, maintenant, s'il vient vers toi ce soir, Cléopas et l'autre ne l'ont pas reconnu. Alors, dans le cantique, on pose la question, s'il vient vers toi ce soir, le reconnaîtras-tu? Il faut le reconnaître. Jésus-Christ est vivant. Et il se fait reconnaître à ceux qu'il aime. Pharaon, il se croyait tout puissant. Il croyait qu'il n'y avait personne de plus puissant que lui. Eh bien, il y a un Dieu qui établit et qui... Et il a... ce qu'il ne savait pas, l'Écriture, la Bible nous donne cette... La Bible nous donne ce témoignage que Pharaon a été prévenu. Romains, chapitre 17, ou bien chapitre 16, verset 16, pardon, chapitre 9, verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Qu'est-ce que le verset 17 dit ? Car l'Écriture dit à Pharaon. Pharaon a été prévenu. Mais il n'y a pas cru. Il y avait une Écriture qui a dit... L'apôtre n'écrit pas que l'Écriture... L'Écriture dit de Pharaon. Hein. L'apôtre écrit, l'Écriture dit à Pharaon. C'est-à-dire que Pharaon a reçu cette Écriture. Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Pharaon devait savoir que s'il était là, c'était le Dieu du ciel, le Dieu des Hébreux, qu'il avait placé là. Et quand Dieu inspire la réponse à Moïse et à Aaron, c'est à dessein qu'ils ont parlé du Dieu des Hébreux. Parce que s'ils avaient dit Dieu, un autre, si Dieu avait donné un autre nom, El Shaddai par exemple, qui est toujours son nom, il ne l'aurait pas reconnu. Mais le fait de lui dire le Dieu des Hébreux, il devait être au courant. C'est comme aujourd'hui, beaucoup refusent d'être au courant. Mais au fond d'eux-mêmes, quand ils regardent dans l'histoire, ils finissent par savoir que c'est la réalité. Que Jésus-Christ est une réalité. Ce n'est pas une fable habilement conçue. Il a visité la France. Irénée, Martin des Tours. Ils ont eu des réveils en France. Donc, il a visité la Gaule. On peut compter la Belgique comme parmi les Gaulois. Dieu a visité les Anglais, Wesley. Ils ont eu un réveil puissant. Il a visité l'Allemagne, Martin Luther. Il a visité les États-Unis. Il a visité l'Afrique également. Il y a eu des réveils en Afrique. Même si on tourne ça autrement. Aujourd'hui, je ne connais pas le témoignage de Kimbangu. C'est possible que Dieu l'ait visité. Mais si ses descendants préfèrent l'adorer lui, c'est leur problème. Mais nous savons une chose, que c'est une réalité. on nous dit, le Dieu des époux, le Dieu d'Abraham dit de faire telle chose, faisons-le.
Amen.
Faisons-le. Et obéissons. Amen. Alors, c'est... Il devait voir, il devait savoir que le Dieu des Hébreux est différent des dieux égyptiens. On va venir vous dire que c'est un dieu juif. Non, il n'est pas juif. Il est Dieu. Il a choisi les Hébreux dans un but. Il les a choisis ainsi. Mais il est le Dieu de toute la terre. D'ailleurs, quand il parle aux Hébreux, quand il leur envoie la loi, il y a de la place pour l'étranger.
Amen.
L'étranger, d'où qu'il vienne, il avait des droits.
Amen.
Parce qu'il est le Dieu de toute la terre.
Amen.
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 Qui est l'Éternel. Nous allons prier. Avant de prier, il y a des choses que nous devrions savoir, que nous ne devrions jamais oublier. Il y en a qui disent, qui vous disent, le Dieu de Branham. Pourquoi ? Parce que du temps de Branham, Dieu a fait de grandes choses. Mais ne prenez pas Branham pour Dieu. Alors ils disent, le Dieu de Paul, eh bien, ne prenez pas Paul pour Dieu. Mais nous devons savoir que nous n'avons pas posé effrontément la question qui est le Dieu, qui est l'Éternel. Non, l'Éternel, c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Créateur des cieux et de la terre. C'est le Maître de l'univers. Prions le Seigneur. C'est le Dieu fidèle qui se souvient de ses promesses. La promesse faite à Abraham 400 ans plus tôt, il l'a réalisée ce jour-là. Oh, Pharaon avait beau nier, et pourtant l'opportunité lui avait été donnée. Car l'apôtre donne ce témoignage que l'Écriture a parlé à Pharaon. L'Écriture a dit quelque chose à Pharaon. Oh, nous tous aussi, l'Écriture nous a parlé. Aussi, Père, nous n'avons pas à nous demander qui es-tu. Oh Père, tout ce qu'il y a, nous te demandons. Oh, fais-nous connaître tes voies. Oh, fais-nous connaître tes cheminements comme tu l'as fait avec Moïse autrefois, avec ton serviteur. Père Céleste, nous nous en remettons à toi ce soir. Nous reconnaissons que tu as fait de grandes choses. Pharaon ne voulait pas le reconnaître. Que si nous tenons debout aujourd'hui, c'est par ta grâce. Si le monde est encore debout aujourd'hui, c'est par ta grâce. Quand Jésus-Christ est venu, lorsqu'il est mort, la terre a attesté qu'il était. La lune, ainsi que ainsi que même le centenier, il a attesté. Tout cela ont attesté. Ils ont réalisé que tu es Dieu. Oh, ne voulons pas sombrer dans l'attitude hautaine de Pharaon. Nous voulons nous rappeler tous ses bienfaits. Nous voulons, ainsi que tous ses hauts faits, et qu'ainsi la louange puisse sortir de nos cœurs, sortir de nos bouches, que nous puissions le louer, l'élever, que nous puissions le chanter, joindre nos cœurs aux anges, proclamer sa sainteté et sa grandeur, ainsi que sa majesté. Nous bénissons ce soir pour nous avoir réunis. Et nous ne voulons pas mettre en oubli. Les enfants d'Israël autrefois avaient mis en oubli toutes tes grandes merveilles que tu avais faites en Égypte. Mais nous ne voulons pas mettre en oubli les grandes choses que tu as faites en notre faveur. Il y a un tombeau vide aujourd'hui. Tout le monde l'a vu mourir. Et personne n'est capable de montrer sa tombe aujourd'hui. Tombe de ceux qui ont été proclamés de grands hommes sur la terre. Nous les voyons. On peut nous en donner l'adresse. Les cimetières où ils ont été enterrés. Quant au Seigneur Jésus-Christ, on reconnaît qu'il est venu. On reconnaît qu'il a été crucifié. Mais personne n'est capable de montrer sa tombe en ce jour. Te bénissons. Te louons. Merci pour nous avoir réunis ce soir. Te remettons notre chemin de retour entre tes mains. Tu sois avec tes enfants, ceux qui n'ont pas pu venir. Tu les bénisses. Tu sois avec ceux qui sont au loin, que tu les bénisses. Tu bénisses aussi ceux qui sont ici. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse.